Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Loïc Barra, délégué municipal d'Horizon à Iffignac, dans les Côtes d'Armor. Il est venu dans des conditions un petit peu particulières, hein, vous avez pu le comprendre, amis auditrices, amis auditeurs. On a été un petit peu contraints par la technique, puisque nous sommes en panne de fibre. Une fois encore, Orange ne nous a pas fourni d'explications quant au rétablissement de la fibre. Alors ce matin, eh bien, on est dans des conditions du direct, dans des conditions un petit peu particulières, ce qui ne va pas nous empêcher de parler politique. Bonjour Loïc Barra.
Bonjour, merci pour votre invitation et malgré les conditions un peu spécifiques.
Voilà, les vicissitudes du moment. On va donc parler politique et il y a eu un événement politique, alors pas en France, mais plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Donald Trump a prêté serment hier, donc le 20 janvier, avec un discours très véhément, très agressif, on pourrait le qualifier ainsi. Vis-à-vis aussi de l'Europe, vis-à-vis des autres pays finalement qui ne font pas partie des États-Unis ou de leur zone d'influence. Comment vous avez reçu ce discours ?
C'était à l'image de la campagne. La campagne était très agressive, que ce soit à l'encontre de Joe Biden, mais aussi à l'encontre de l'Europe et du reste du monde. Donc j'étais pas si surpris que ça, mais ça reste étonnant et inquiétant pour nos intérêts, pour les intérêts européens. Quand on entend Donald Trump dire qu'il sort encore une fois des accords de Paris, c'est inquiétant. Les États-Unis sont le deuxième pays le plus gros émetteur de CO2. On ne peut pas se passer d'eux pour dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc sortir une seconde fois des accords de Paris, c'est inquiétant. Au niveau de la diplomatie internationale, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment rassuré par la venue de Donald Trump, qui menace dès son arrivée le Canada, le Mexique, Panama, le Groenland. On a un peu l'impression qu'on a affaire à un enfant qui aurait besoin de plus de jouets. Donc oui, on peut être inquiet.
Selon vous, il y a une part de bluff, comme l'on dit dans ses propos, ou c'est quand même à prendre au premier degré, c'est assez inquiétant.
Alors, je pense qu'il y a une part de bluff dans le sens où je ne vois pas les États-Unis être prêts à déployer l'armée ou à déployer une force militaire pour arriver à leur fin. Cependant, leurs ambitions sont bien réelles et ne pas les prendre au sérieux, ça serait une grosse erreur de notre part et ça serait avoir un train de retard sur la suite.
Avec un petit peu partout en Europe... un contraste avec différents pays, bien sûr, mais un peu partout en Europe, une montée du populisme, là aussi incarné par Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que ça renforce justement ces gouvernements un peu populistes? On peut imaginer la Hongrie, par exemple. Et est-ce que ça renforce ce sentiment en Europe? Et est-ce que c'est dangereux, finalement?
Bien sûr, il n'y a qu'à voir les invités européens de Donald Trump à son investiture. En France, Sarah Gnafo ou Éric Zemmour, Viktor Orban pour la Hongrie, enfin, tous les dirigeants populistes ou hommes politiques populistes européens étaient à l'investiture de Donald Trump. Donc c'est un soutien pour leur politique, pour leurs ambitions. Donc nous, il nous faut être réactifs, il ne faut pas être naïfs. Contrairement à la manière dont on avait réagi pour le premier mandat de Donald Trump, il faut agir dès maintenant en européen.
Alors justement, est-ce que quelque part ça va amener l'Europe à réfléchir, à peut-être tirer parti de ce que dit Donald Trump pour y répondre tout simplement?
Alors oui, nécessairement. Maintenant, on ne peut pas dire que ce soit vraiment bénéfique pour l'Europe, tout ce qui se passe aux États-Unis, mais ça va être le moment pour un sursaut européen. On parle de plus en plus d'Europe de la défense. Lorsque les États-Unis commencent à dire qu'ils vont se désengager de l'OTAN, nécessairement, si on veut une défense européenne solide, il faut s'y mettre dès maintenant. Donc ça doit être le moment d'un sursaut européen. Et on appelle de nos voeux une défense européenne, on appelle de nos voeux une solidarité européenne. Quand on voit encore, depuis un an, depuis deux ans, l'Ukraine qui recule, le soutien européen et américain qui recule, on ne peut pas abandonner maintenant.
Avec une guerre asymétrique, une guerre qui se passe aussi sur les réseaux, la fameuse cyberguerre. On a entendu le président de la République qui est venu en visite à Cesson-Sévigné parler aux armées finalement et dire voilà, demain il va falloir s'engager, il va falloir que les jeunes s'engagent, il va falloir qu'on réfléchisse aux guerres de demain. Et, j'allais presque dire, est-ce qu'on en est là aujourd'hui ?
Oui, on en est là. On est là parce qu'on a besoin de préparation pour les guerres de demain. On ne peut pas s'y prendre au dernier moment à se dire qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont nos armes, quels sont les besoins. Donc oui, le président a raison de dire il nous faut dès maintenant préparer les guerres de demain. Il faut que chacun soit conscient des devoirs de ses devoirs et soit prêt à s'engager, quelle que soit la manière, quelles que soient les capacités, les qualités de chacun. Et être naïf, être attentiste, ne va aider à rien du tout. Donc oui, il faut être prêt, il faut commencer à se faire à l'idée qu'il va falloir s'engager.
Avec évidemment la question de l'OTAN, on sait qu'en son temps, le général de Gaulle était sorti du commandement intégré de l'OTAN. Hein. On parle bien du commandement intégré, mais on était resté dans l'OTAN. Or là, on a entendu un discours, là aussi signé Donald Trump, qui dit, voilà, finalement, en Europe, si vous voulez être protégé, eh bien, c'est 5% du PIB, débrouillez-vous, sinon, on participe pas à votre protection. Est-ce que c'est une forme un peu polie pour dire, voilà, on veut plus s'occuper de l'Europe, débrouillez-vous?
Oui, globalement, effectivement, alors, Donald Trump, être poli, c'est pas sa préoccupation première. Enfin, on a besoin d'être indépendant, parce qu'on voit très bien qu'on ne peut pas avoir confiance dans Donald Trump, on ne peut pas avoir confiance dans les États-Unis. En tout cas, plus autant qu'auparavant. On a toujours des alliés, mais on ne peut plus être dépendant de leur propre volonté. Donc il faut nous-mêmes mettre en œuvre notre volonté pour pouvoir nous défendre, pour réaliser nos ambitions et protéger nos intérêts.
Avec aussi tout un enjeu technologique. On a vu dans l'ombre de Donald Trump un certain Elon Musk, le propriétaire de X, ex-Twitter, mais aussi de Starlink ou encore de Tesla. Là aussi, il y a un enjeu des technologies de demain, de l'intelligence artificielle. On sait qu'en Europe, on a de bons ingénieurs, mais on est très en retard sur la question. Est-ce que là aussi, c'est un enjeu pour le futur, un enjeu crucial ?
C'est un enjeu crucial à tel point qu'on l'a déjà pris à bras-le-corps. On a effectivement d'excellents ingénieurs, certains voire les meilleurs du monde dans l'intelligence artificielle, qui partent de moins en moins aux États-Unis. On a de plus en plus de projets, notamment industriels en France et en Europe. Donc c'est un sujet qu'on a déjà pris à bras-le-corps. Maintenant, il faut continuer dans cette politique-là. Il faut être capable de se défendre face à la guerre commerciale que nous livrent les États-Unis et que nous livre la Chine, à être indépendant et à réfléchir en européen. Et ça, c'est vraiment important.
Alors, réfléchir en européen, ça veut dire aussi améliorer les conditions sociales, avoir une plus grande fluidité politique. Ça va nous ramener sur notre terrain de bataille, la France, si vous me permettez, avec aujourd'hui un contexte particulier en France. On a vu cette motion de censure qui a failli passer, la deuxième, qui n'a pas été adoptée par les députés. Une forme d'instabilité politique, ça veut dire aussi une forme de fragilité de la France au niveau institutionnel, mais plus largement au niveau de ses relations avec les autres pays européens, parce que voilà, ici on a du mal au niveau politique.
Évidemment, si aujourd'hui la France n'est plus aussi influente qu'il y a même un an, deux ans en Europe, c'est essentiellement de la faute du RN et de LFI et du NFP en général qui a voté la motion de censure il y a quelques mois. Si on n'a pas pu faire entendre notre voix sur les accords commerciaux qui sont passés, sur la défense des agriculteurs, sur les clauses miroirs, c'est de la faute de cette instabilité politique, de cette crise politique, suite à la motion de censure. Il faut être très clair là-dessus.
Avec quand même une faute, on pourrait le dire comme ça, politique du président de la République qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale dans un moment qui n'était peut-être pas un timing, qui n'était peut-être pas forcément le bon.
Oui, effectivement, chez Horizon, on n'a jamais été tout à fait enthousiaste par l'idée du président de la République de dissoudre l'Assemblée en juin dernier. Maintenant, il a redonné la parole aux Français. Il ne faut pas que les Français se désolidarisent de cette décision. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, reflète les idées politiques des Français. Et donc, il faut être capable de créer des compromis dans la société française, tout comme à l'Assemblée nationale, Et c'est extrêmement important.
Mais difficile de faire dialoguer, par exemple, des partisans de LFI avec des partisans du RN.
Et pourtant, ils s'entendent très bien entre eux pour pouvoir voter une motion de censure ou pour pouvoir voter contre l'intérêt des Français. Donc non, le véritable enjeu, il est de réussir à faire dialoguer les partis de gouvernement. On peut se réjouir de l'accord de non-censure, ou en tout cas de la non-censure du PS dernièrement. Maintenant, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. On a un budget à faire passer. On est en janvier, fin janvier, on n'a toujours pas de budget. C'est quand même extrêmement grave pour un pays comme la France de ne pas être capable de pouvoir investir. On parlait de l'intelligence artificielle. Si on n'a pas de budget, on ne peut pas continuer à investir dans l'intelligence artificielle. Mais de manière très concrète, on ne peut pas continuer à investir dans les écoles, dans les entreprises, dans les services publics. Il nous faut un budget, il nous faut pouvoir discuter entre partis de gouvernement, des conservateurs jusqu'aux sociodémocrates. C'est ce qu'on dit avec Horizon depuis le début.
Alors on a entendu Édouard Philippe parler sur les réseaux, mais aussi dans les médias, et dire que voilà, il fallait aller vers un compromis, mais aussi vers une grande stabilité, parce que bien on n'y voit pas tellement clair actuellement.
L'instabilité politique actuelle a des effets dans tous les domaines. Si aujourd'hui nos taux d'intérêt augmentent, c'est notamment à cause de l'instabilité politique. On a d'une part une dette qui est bien trop importante, et c'est un vrai sujet, c'est un vrai danger pour la France. Mais en plus, et rajouter cette instabilité politique, et donc évidemment la confiance des investisseurs n'est plus au beau fixe, n'est plus aussi importante qu'il y a quelques années. L'instabilité politique, elle empêche d'investir, elle empêche d'entreprendre, elle empêche de se projeter dans l'avenir. Donc forcément, ça a un impact, et ça ne peut pas donner du bon.
Édouard Philippe, toujours lui, qui disait également qu'il allait falloir effectivement faire des économies. Comment faire des économies aujourd'hui? C'est un petit peu la grande question. Et là, je crois que c'est un peu transpartisan. Comment faire des économies aujourd'hui en continuant d'investir, en continuant de poursuivre les objectifs, en continuant de maintenir le service public? On voit que la santé souffre beaucoup aujourd'hui. Voilà, on a un système de santé qui, permettez-moi le terme, il est un peu fort, mais qui est à l'agonie. Comment arriver à équilibrer justement les dépenses et les économies?
Il y a deux choses importantes. Lever les tabous et chercher l'efficacité de l'action publique. Vous parlez de la santé. La santé, on investit depuis 7 ans de manière extrêmement importante. Et pourtant, le système reste à bout de souffle. On parle toujours d'agonie. C'est toujours très compliqué. Parce que fondamentalement, le souci du service public de la santé, ce n'est pas qu'un problème de moyens. Tout comme dans la justice, tout comme dans la police, tout comme dans tout le reste du service public, on n'est pas uniquement sur un problème de moyens. On est sur un problème d'efficacité, on est sur un problème de postes inutiles ou de postes qu'on pourrait réduire. On est sur un problème d'évaluation des politiques publiques. On n'évalue pas suffisamment de politiques publiques. Et donc, on continue à investir, on continue à mettre de l'argent dans le fonctionnement et sans jamais se poser la question du réel impact de cet argent.
Avec une administration très présente. Alors, on entend les policiers qui se plaignent. On entend effectivement les soignants qui se plaignent d'avoir toujours plus d'administratifs à traiter. On a entendu le Premier ministre François Bayrou parler de simplification administrative, de l'appeler de ses voeux. Alors, on en entend beaucoup parler depuis quelques années. On espère que ça va arriver. Ça passe aussi par beaucoup d'agences. Il y a 1000 agences aujourd'hui en France, agences gouvernementales dans divers domaines. Là aussi, le Premier ministre veut supprimer, en tout cas celles qui ne sont pas plus utiles qu'à la moyenne. Il va créer d'ailleurs une agence pour ça. Bon, c'est un petit peu le côté amusant de la chose, mais il n'en demeure pas moins que là aussi, on pourrait faire des économies et simplifier aussi toute cette administration qui, il faut bien reconnaître, est pesante, y compris même pour les élus. On pense aux maires qui se plaignent souvent de ce surplus administratif.
Oui, alors il faut faire attention au niveau des agences. C'est-à-dire que supprimer les agences pour en supprimer, c'est pas toujours très utile. C'est-à-dire que si ces agences, elles nous permettent un meilleur investissement, si elles nous permettent de mieux choisir nos projets et de mieux utiliser notre argent, ces agences, elles sont tout à fait utiles. Donc les supprimer pour finalement derrière investir, pas n'importe comment, mais moins bien, de manière moins fléchée, finalement cet argent, il sera perdu et ça ne fera pas avancer. Donc il faut une véritable évaluation de ces agences, de pourquoi elles sont créées, de est-ce qu'elles peuvent être fusionnées, est-ce qu'on peut centraliser toutes nos compétences pour être le plus efficace possible. C'est-à-dire que la politique de dire on va tout supprimer, ça sert à rien, dans toute façon, on n'en a pas besoin, il faut faire attention, on parle dans du populisme. J'entends certains, notamment Dai Lisnard, qui est aux enchères aux économies, en disant je vais faire 200 milliards d'économies. C'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Se désengager de tout, pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas, non. C'est à développer. Mais il faut expliquer réellement les conséquences de ce désengagement.
Voilà, ne pas se désengager comme dans certains pays. On pense à Javier Milei qui a fermé beaucoup d'agences pour faire beaucoup d'économies dans un autre pays. Ici en France, on parle de simplification administrative. J'y reviens parce que tout un chacun, on est tous confrontés un jour ou l'autre à beaucoup de complications administratives. Est-ce que là aussi, il faut avoir un travail de terrain réel pour essayer de simplifier un peu la vie des Français, la vie des élus? Est-ce que là aussi, il faut penser à simplifier et surtout rendre cette simplification réelle sur le terrain et dans notre quotidien?
Il faut absolument simplifier les procédures, mais tout en gardant un certain contrôle. C'est-à-dire que simplifier pour simplifier, encore une fois, c'est pas forcément toujours utile. C'est-à-dire que si on simplifie, mais que derrière, on n'a plus forcément les informations, on n'a plus forcément la capacité de répondre aux problèmes des Français, bon, les Français ils vont nous dire « Vous êtes bien gentils, effectivement, j'ai moins de choses à faire, mais le travail il est encore moins bien fait. » Donc, il faut pas travailler avec des idéologies ou avec de la communication. Il faut voir concrètement qu'est-ce qui peut aider réellement la vie des Français. Si on peut simplifier sans toucher à l'efficacité, alors simplifions, évidemment. Mais il faut qu'il y ait une réflexion derrière, sinon c'est de la communication, sinon on aggrave encore plus les choses.
Alors sur le terrain, il y a aussi des élus. Alors les maires, on les entend beaucoup. Il y a déjà un petit peu de mouvement avec la préparation des élections municipales de 2026. On va en dire un mot. Horizon est à la manœuvre, hein, si je peux le dire comme ça, de façon un peu triviale. Est-ce qu'il est important aussi aujourd'hui d'avoir un meilleur fonctionnement des institutions territoriales? On pense aux collectivités locales, mais qui sont tenus aussi par des économies. Là aussi, l'équation est un peu la même qu'au plus haut niveau de l'État, c'est comment faire mieux avec moins.
Il faut nécessairement revoir nos compétences. C'est très clair, personne ne comprend rien aux compétences des collectivités territoriales. Entre l'État, la région, le département, les intercos, les communes, personne ne sait qui est compétent sur quoi. Donc il faut remettre à plat la loi NOTRe qui a maintenant 10 ans, il faut tout remettre à plat, pour avoir une meilleure efficacité. La région Pays de la Loire et Christelle Morançais a fait de grosses économies, 100 millions d'euros d'économies, sur le budget 2025.
Elle a été très pointée du doigt, parce qu'elle a beaucoup touché la culture. On a entendu les acteurs de la culture se plaindre, pour certains juste titres, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés sans subvention du jour au lendemain. Est-ce que la méthode n'était pas un peu violente, si vous permettez le terme?
La méthode est à perfectionner, c'est une chose. Pourtant, ces économies étaient largement nécessaires. Vous dites que la culture a été touchée, pas nécessairement plus que d'autres domaines. Quand on regarde spécifiquement chaque domaine de compétences de la région, tous les domaines ont fait des efforts, que ce soit l'entreprise, le transport, les lycées. Dans le fonctionnement, tous ont fait des efforts. Maintenant, à la culture, effectivement, il y a eu une levée de bouclier plus importante. On commence à avoir l'habitude avec la culture, mais chacun doit faire des efforts. Tout le monde est responsable de la situation dans laquelle on est. Et effectivement, il faut savoir faire des choix. La région a des compétences dans laquelle seule elle agit. Si personne n'agit, si la région n'agit pas dans le transport TER ou bus ruraux, personne n'agira. Dans les lycées, c'est pareil. Alors que la culture, effectivement, le département peut agir dans la culture, l'État aussi, les communes aussi, les intercos aussi. C'est très brouillon, mais il y a une multitude d'actions qui sont possibles. Donc oui, il faut prioriser, et la culture n'est pas la priorité, effectivement, en ce moment-là.
Est-ce que finalement, aujourd'hui, il faut dire les choses aux Français, le pays a du mal à s'en sortir? Est-ce qu'il faut avoir finalement un discours réel et non pas un discours de communication?
C'est ce qu'on essaie de faire. Je crois que, notamment, on parlait de Christelle Morançais, on peut être sur un discours quand même extrêmement réel. Où justement, elle n'a pas fait d'effet de communication, ou en tout cas sur la baisse des subventions, si, mais elle n'a pas cherché à embellir, à arrondir les angles. Il faut dire les choses de manière très claire, il ne faut pas mentir aux Français, parce que si on commence à arrondir les angles, si on commence à dire ne vous inquiétez pas, c'est temporaire, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Bon, d'une part, c'est mentir aux Français et ils se rendent compte. Mmh. Donc, il y a un moment, c'est encore réduire la confiance des Français dans leur politique et c'est pas faire du tout faire avancer les choses. Si on veut un consensus sur ces questions, il faut dire clairement les choses à chacun. Oui, on a un problème de dette. Oui, il nous faut faire des économies. Maintenant, trouvons ensemble des réponses.
On a un petit peu mis la poussière sous le tapis pendant, allez, je veux dire, une quarantaine d'années de politique, quelle que soit d'ailleurs la sensibilité et le parti politique au pouvoir. On n'a pas parlé vrai aux Français. C'est ça qui nous a amené là où on est aujourd'hui.
Oui, oui. Très sincèrement, oui. On a voulu... On a été peut-être naïfs sur la dette en se disant... Pour l'instant, ça va, on va pouvoir rembourser plus tard, il faut investir, ne pensons pas à ça maintenant, etc. C'est un emprunt sur les générations futures. Et d'une certaine manière, parfois, c'est entendable que des structures qui servent à plusieurs générations soient financées par un emprunt qui sera remboursé par les générations futures. C'est largement entendable. Mais quand ce sont des dépenses de fonctionnement, des dépenses courantes qui sont financées par l'emprunt, là, c'est plus entendable.
Alors, sur l'emprunt, justement, jadis, on avait des emprunts, de gros emprunts pour équiper la France. On pense à l'emprunt EDF en son temps, ou l'emprunt PTT. Voilà, ça va nous ramener loin, ça nous ramène au PTT d'ailleurs. Pour pouvoir équiper la France, on pourrait imaginer demain un emprunt IA, pourquoi pas, pour favoriser la recherche et avancer dans ce domaine. Est-ce que... De votre point de vue, ça peut être une idée, justement, de relancer ces grands emprunts, alors que les Français ont beaucoup d'économies. Hein. Les Français sont un peu les rois de l'économie.
Alors, je ne pense pas que ce soit nécessairement le moment. On a d'autres priorités. Voilà, ça ne me semble pas justifié, en tout cas, aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous faut assainir les dépenses. Il nous faut mettre un ordre de priorité dans nos actions. Être capable de dire stop, là... On attend avant de continuer à subventionner, on attend avant d'aller plus loin. Il faut savoir dire, ici, c'est un domaine d'avenir, on continue. Ici, c'est pas nécessaire, on ne continue pas.
Alors, je parlais tout à l'heure des municipales. Je disais en commençant que vous étiez le délégué municipal d'Horizon à Effignac, dans les Côtes-d'Armor, tout près d'ici, tout près de la radio. Aujourd'hui, on sent qu'Horizon se met en place, en marche, mais ça va peut-être faire un vilain jeu de mots, se met en place en tout cas pour pouvoir peser dans ces municipales et peut-être ouvrir la voie, on l'a compris, à Édouard Philippe sur sa marche vers l'Élysée.
Horizon a toujours été un parti tourné vers des élections locales, vers des élus locaux. C'est notre identité, de partir du territoire, de partir des compétences et de l'expérience sur les territoires pour ensuite obtenir un résultat national et avoir de meilleures idées au niveau national.
C'est important cette connexion avec le terrain. On entend beaucoup les Français aujourd'hui, mais les Bretons aussi dire voilà, finalement, au plus haut niveau de l'État, les politiciens ne sont pas en phase avec nous, ne nous comprennent pas, ne nous écoutent pas. C'est important de renouer ce contact entre le citoyen et le politique.
Évidemment. Maintenant, il faut que ça passe par tout le monde. Tout le monde doit faire des efforts dans ce domaine. Aujourd'hui, de plus en plus de maires, d'élus municipaux locaux sont agressés, ont leur domicile vandalisé. On ne peut pas avoir un climat de confiance dans ces situations-là. Donc, il faut qu'il y ait un effort de la part de tous, à la fois de la population, de toute la population qui doit s'investir dans ces sujets, dans la politique, pas uniquement sur les réseaux sociaux, pas uniquement dans sa télé, mais au local, dire qu'est-ce que je peux faire pour la France, qu'est-ce que je peux faire pour ma commune, pour mon quartier. Et ensuite, on arrivera à avoir une meilleure relation entre les élus et le reste de la population. Mais les élus sont aussi des Français, ils sont aussi des Français comme les autres. On ne peut pas les écarter, dire vous êtes élus, vous ne comprenez plus, c'est plus possible. Non, retrouvons ce lien et cette compréhension de l'autre, notamment par l'engagement de tout un chacun, là où il peut.
Et l'apaisement aussi, on a une société très fracturée, on l'entend sur des questions d'immigration ou des questions de sécurité qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène et dans l'actualité. Est-ce que là aussi il y aura de grands chantiers, ce sera ma dernière question, de grands chantiers à conduire sur ces grandes questions, immigration, sécurité? Ça résonne un petit peu avec ce qui se passe aux États-Unis d'ailleurs.
Oui, alors pas de la même manière.
Pas de la même manière, j'entends, hein, voilà.
J'ose espérer qu'on ait un autre futur, un autre avenir que dans le domaine que les États-Unis. Maintenant, oui, c'est des sujets qu'il nous faut traiter. Il faut faire attention à la manière dont on le traite, que ce ne soit pas là pour fracturer encore plus la société, comme peut le faire le Rassemblement National ou LFI dans un autre genre. Donc, il faut traiter ce sujet. Il faut mettre tout le monde autour d'une table, discuter, ne pas partir d'idéologie, d'idées reçues, et voir concrètement les faits, les risques, et voir quel est le moyen d'action on veut se donner pour pouvoir y répondre.
Un dernier mot sur Édouard Philippe. C'est l'homme, finalement, j'allais dire, du constat de ce qui se passe en France à tout niveau et dans les domaines dont on a pu parler depuis le début de cette interview. Ce sera aussi l'homme d'action, on peut l'imaginer comme ça?
Oui, bah, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, c'est ce sur quoi on travaille, en tout cas. Édouard Philippe a parlé d'un projet massif pour la France et pour les Français. On est en train de le construire de manière réfléchie, de manière raisonnée, en partant des acteurs locaux, des acteurs de terrain, des spécialistes, pour ne pas avoir quelque chose d'idéologue ou de communication.
Il faut sortir de la démagogie, finalement.
Exactement. Il faut avoir un projet qui soit réfléchi en amont. On a de plus en plus de projets qui sortent en quelques mois ou qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe. On se rend compte que c'est réfléchi à moitié, qu'il y a beaucoup de punchlines, de communication. Et finalement, derrière, les choses ne suivent pas.
Il faut redonner aussi un temps politique. Finalement, aujourd'hui, on voit que ça va très vite. Hein. Vous citiez les réseaux, les petites phrases, les punchlines, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut se redonner un temps politique, un temps de la réflexion?
C'est important de faire comprendre à tout le monde que faire de la politique, avoir un projet pour la France, ça prend du temps. Ça prend du temps, on ne peut pas tout faire tout de suite. Et si on ne prend pas le temps de réfléchir, de discuter, de se poser des questions, de se remettre en question soi-même, on ne peut pas proposer quelque chose de clair et d'efficace aux Français. Donc, méfiez-vous de ceux qui vous donneront des réponses faciles toutes les semaines, et faites plutôt confiance à ceux qui auront réfléchi à leur projet, qui auront une pensée qui soit construite et qui soit vers le long terme, qui soit tournée vers l'avenir.
Promettre moins, faire mieux.
Ça peut résumer notre projet, oui.
Merci beaucoup, Loïc Barra, délégué municipal d'Horizon à Iffignac, dans les Côtes d'Armor, d'avoir été avec nous ce matin au micro de la matinale dans les conditions un petit peu particulières dont je parlais au début, c'est-à-dire, voilà, on est un petit peu muet, Bretagne 5, voilà, on espère retrouver la fibre très vite. En tout cas, on pourra vous réécouter en podcast et sur les réseaux, évidemment. Merci infiniment d'avoir été avec nous, je vous souhaite une très belle journée.
Une très belle journée à vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.